Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque nationale. Il commence à faire beau, il commence à faire chaud et l'impression que sur les terrains de tennis Montréal, les réservations, mon cher Hugues, commencent à s'empiler une après l'autre.
C'est surtout que les abonnements vont bon train en ce moment. On a ouvert les inscriptions pour les tournois, les ligues, les cours de l'été et ça a été la folie furieuse. Là, ce qui est le fun pour le tennis, c'est qu'on dépasse déjà pour avril nos chiffres de 2023. Donc, année sur année, on est en progression, là. Donc, ça, c'est signe que la demande est là. Puis oui, beaucoup de gens nous demandaient est-ce que les filets sont posés. De plus en plus, c'est le cas, là. Jeanne Mance, c'est déjà fait. La Fontaine, ça s'en vient. Donc, on peut jouer beaucoup déjà sur les terrains de Montréal au tennis, on en est très fiers. Et la saison printemps est lancée. Moi, quand on arrive sur terre battue rouge là, à Monte-Carlo, direction Roland-Garros, c'est une des plus belles saisons de l'année pour le tennis.
Ouais, c'est une saison pour les lève-tôt en Amérique du Nord, mais c'est une des parties de la saison pure, si on veut, là, sur cette terre battue rouge là. C'était la voix de Hugues Léger que vous avez entendue en direct des studios, les prestigieux studios au Parc Jarry dans son bureau. À côté de moi également, on a Charlotte Robillard-Minette qui a encore un petit teint là, de son voyage en Suède. Comment te portes-tu, Charlotte?
Ça va bien, merci. Il commence à faire de plus en plus chaud. Moi aussi, je vois les filets sur les terrains près de chez moi. Donc, je voulais peut-être même y aller en fin de semaine, mais c'est les examens finaux. Donc, j'ai priorisé les études. Mais non, très contente de voir que la température se réchauffe. Comme Hugues mentionnait, les tournois sur terre battue rouge, Roland-Garros qui s'en vient. Donc, très excitée pour la suite, pour les prochains tournois, de voir ce qui va se passer.
Et là, Charlotte, là, qui, vous ne savez peut-être pas, mais on l'a intégrée dans notre fameuse conversation de groupe là, dont on parle assez régulièrement. Et je peux vous dire, elle a pris son rythme, là. Elle commence à ajouter des choses dans la conversation. Elle fait vraiment partie de l'équipe. Elle est impliquée. Alors, voilà, vous savez tous, vous savez tout maintenant sur notre conversation de groupe. Oui, Charlotte, tu dis, tu as des examens qui s'en viennent. Là. Quelle matière là, qui s'en vient pour toi?
Moi, je finis mon bac en communication. Donc là, j'ai des examens en communication interne, des vulgarisations scientifiques, industrie culturelle. Donc, ça varie vraiment. J'ai 6 cours. Donc, des fois,
C'est
c'est de.
oh, une bonne saison, ça.
Ouais,
C'est une bonne
ouais.
saison, ça, à l'université, c'est ce qu'on.
Ouais, c'est ça. Fait que là, il me reste juste une semaine. Donc, dernier sprint, universitaire à vie.
Mais en tout cas, si vous nous écoutez, vous entendez la voix de Charlotte, vous cherchez peut-être quelqu'un pour travailler en communication, elle s'exprime très bien. C'est une fille organisée, c'est une athlète, elle est disciplinée, elle a toutes les qualités pour aider votre entreprise. Si jamais vous nous écoutez, si jamais Charlotte cherche un stage ou un emploi, ben, la plug, elle est faite, mais elle va pas trop loin là, parce que nous, on veut te garder le plus longtemps possible. Bon, parlons de tennis puisque c'est notre mandat. C'était le tournoi de Monte-Carlo, un tournoi de niveau 1000 et Félix Auger-Aliassime y était. On a eu un petit peu d'espoir quand on a vu que Félix devait affronter Carlos Alcaraz et Carlos Alcaraz s'est retiré. On disait, bon, ça s'ouvre là, pour Félix. Peut-être qu'il aura une chance d'avancer un peu plus loin dans le tournoi. Mais Hugues Léger, ça a été un peu à l'image de son restant d'année, c'est-à-dire correct sans plus.
Ouais, Félix qui jouait un peu à la maison aussi. Hein. On sait que son domicile est sur le rocher de Monaco. Il s'entraîne souvent au Monte Carlo Country Club, qui est un super, super beau club. Et effectivement, on se disait il y a une semaine, il y avait une très bonne victoire contre Nardi au premier tour. On disait qu'Alcaraz, c'était pour être un bon test. Alcaraz qui est un peu blessé au bras, c'était peut-être une occasion pour Félix de vraiment se donner un bon élan au niveau confiance pour la suite de la saison. Alcaraz se retire, il joue finalement contre Sonego au prochain tour et perd ce match contre Sonego en 2-7. Encore une fois, dans notre conversation de groupe, tu en parlais, moi je souligne que c'est une opportunité un peu manquée pour Félix parce qu'il y avait un tableau qui s'ouvrait pour lui, effectivement. On sait qu'il aime bien cette surface-là aussi. Encore une fois, il doit être déçu, mais ça fait plusieurs semaines où j'ai l'impression qu'on répète un peu le même pattern. Il n'a pas passé ce cap-là de vraiment se rendre dans une ronde des 16 ou un quart de finale ou une demi-finale sur un gros tournoi et ça commence à s'enchaîner. Donc, il se maintient autour de la 35e position, mais je pense qu'il ne doit pas être très content encore en ce moment.
Ouais, c'est un peu triste parce que dans le fond, Félix, il affrontait un adversaire qu'Alexis Galarno a battu il n'y a pas si
Oui,
longtemps, là.
en Coupe Davis, oui.
En théorie, quand on regarde les classements de Félix et d'Alexis, ben, c'est pas exactement du même niveau pour l'instant. D'ailleurs, peut-être un petit commentaire sur Alexis Galarno, puisque j'y parle. Il a quand même fait un quart de finale, lui, à Cuernavaca cette semaine. Il a perdu
Oui.
contre Maxime Cressy, quand même, un
Oui.
match assez serré. Alors, un autre résultat intéressant pour Alexis
Tout à fait.
Galarno dans une ville dont le nom, je ne prononcerai pas une deuxième fois, puisqu'il semble particulièrement compliqué. Mais non, dans le cas de Félix, c'est ça. C'est un peu dommage parce qu'on se disait, bon, mais il n'aura pas Alcaraz dans les pattes. Charlotte, tu vois ça comment, ce match-là? Bon, une victoire contre Nardi, mais quand même une défaite contre Sonego, qui, cela dit, n'est quand même pas un mauvais joueur non plus.
Non, pas un mauvais joueur, mais moi aussi, je suis surprise de voir ça. Je pensais que ça allait être une belle opportunité pour Félix d'avoir un match peut-être un petit peu plus facile, puis de passer à travers justement pour rechercher ça. Aller chercher un peu plus de confiance. Donc, le fait que Carlos se soit retiré, ça aurait pu être une porte ouverte pour Félix. Malheureusement, ça ne l'a pas été. Donc, je pense que, comme Hugues mentionnait, il doit être déçu. Il doit pas être en pleine confiance en ce moment. Puis, il jouait aussi comme un peu à la maison parce qu'il connaît beaucoup le
Exact.
terrain. Puis, il est habitué probablement aux environs. Puis, peut-être qu'il dormait aussi chez lui. Donc, c'est beaucoup d'aspects qu'on pensait peut-être que ça pourrait être une semaine positive pour lui. Dommage. Je pense qu'il faut qu'il pense peut-être à faire quelques petits changements. Quand on voit que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que ça fonctionne pas, ben, des fois, faut prendre action. Donc, à voir pour la suite pour Félix, mais on aimerait tous le voir faire un bon tournoi là. Je pense qu'il est dû.
Oui, ben, puis je pense qu'il pense exactement la même chose aussi, parce que je l'entendais en entrevue justement dans le tournoi de Monte-Carlo. Et puis, ben, il disait lui-même là, qu'il voulait des meilleurs résultats et qu'il s'attendait à plus de lui. Et c'est un peu dommage parce que dans le premier match, ben, son service était bon. Il avait même dit, oui, ma première balle était bonne, mais ma deuxième balle fonctionnait très bien également. Bon, on sait que le service de Félix est une arme assez puissante dans son cas. Alors, c'est un peu dommage que ce soit traduit comme ça au deuxième tour. Charlotte, quand je regarde le tableau de son adversaire, ben, il a dû se qualifier Lorenzo Sonego pour ce tournoi-là. Il a battu Goffin et Bautista Agut en qualification avant d'affronter Félix, qui sont quand même deux joueurs assez connus là, qui sont de bons joueurs. Est-ce que affronter un joueur qui sort des qualifs avec du rythme, c'est toujours un peu plus compliqué, Charlotte?
Ouais, ben je pense que c'est des fois on recommande en tant que là je parle peut-être plus en tant qu'entraîneur, mais je l'ai vécu aussi en tant que joueuse. Des fois on se fait recommander ou on recommande à l'athlète de jouer les qualifications. Par exemple, dans un plus gros tournoi, on te donnera pas un wildcard pour le tableau principal, on te laissera pas un laisser-passer, mais on aimerait ça que tu joues plus de matchs pour prendre confiance, pour t'habituer au terrain, pour tu sais pratiquer tes choses, te sentir un petit peu plus en confiance. Donc je pense que d'avoir eu peut-être deux victoires là, c'est sûr que il est rentré comme lucky loser par la suite. Donc, peut-être qu'il ne s'attendait pas nécessairement à jouer ce match-là, mais je pense que quand même, avec deux matchs derrière la cravate comme ça, des fois, ça peut aider à prendre confiance puis à s'habituer, aux conditions de jeu, là, définitivement.
Ouais, tu fais bien de mentionner qu'il avait perdu contre Roberto Bautista Agut en 3-7. C'est quand même un gars qui arrivait avec du rythme. Il a fait une bonne bataille par la suite au troisième tour à Hugo Humbert, Lorenzo Sonego. On y reviendra au tournoi de Monte-Carlo parce qu'on va parler notamment du gagnant. Je veux qu'on fasse un petit saut puisqu'on parle de Félix Auger-Aliassime. Lui, il s'en va jouer un autre tournoi tout de suite. Et je regardais son tableau à Munich, mon cher Hugues, et une fois de plus, c'est prenable, mais j'ose te demander, avant qu'on tombe dans l'analyse plus précise, t'attends-tu à le voir faire enfin une percée dans un tournoi ou tu dis, ben, lançons les dés, arrivera ce qui arrivera, parce que c'est dur à prédire maintenant ce qui se passe avec Félix?
Ben, moi, de façon objective, je m'attends à avoir une performance étincelante de Félix à un moment ou à un autre. C'est pas un joueur qui sera satisfait, je pense, de rester un joueur qui sort en ronde de 64 ou 32. C'est pas Félix Auger-Aliassime, mais je pense pas qu'il est rendu là dans sa carrière. Je pense pas que ça correspond à ses objectifs aussi pour 2024. Il n'y a plus de question de blessure. On sait que ça a été un problème en 2023. Donc, moi, je mise toujours sur un Félix qui va aller loin au niveau des tableaux, au moins en ronde des 16. Mais il y a quelque chose qui accroche en ce moment dans son jeu, sûrement au niveau de sa confiance aussi. Puis encore une fois, c'est un tableau, comme on répète souvent, qui semble prenable. Bon, quand même, Zverev et Rooney, favori numéro 1 et 2, c'est des très bons premiers, deuxièmes favoris. Mais quand on regarde la route de Félix, ben, je m'attends à ce qu'il fasse 2-3 tours. J'aimerais bien le voir au minimum en quart de finale.
Ouais, quart de finale, c'est très possible parce que avant les quarts de finale, il aurait Marterer au premier tour qui est classé 101e mondial, l'a jamais affronté chez les pros. Ce serait Connell au deuxième tour, lui non plus, il l'a jamais affronté. Mais quand on regarde, sa fiche, honnêtement, Hugues, contre tous les joueurs qui pourraient affronter d'ici la finale, ben, il a une fiche gagnante contre tout le monde, égale ou gagnante. Ouais. En quart de finale, ce serait peut-être Botik van de Zandschulp ou Lennart Struff. Il affronterait peut-être Rooney en demi-finale s'il devait se rendre, mais il a quand même une fiche de 2-2 contre Rooney. Quand je regarde son tableau, bon, c'est très possible de penser qu'il peut atteindre une demi-finale. Charlotte, à la lumière de ses résultats dans les dernières semaines, est-ce que tu es confiante de le voir aller loin ou tu te dis, on verra parce qu'il n'y a rien de simple, incluant pour les premiers tours, même contre un 100e mondial?
Oui, il n'y a jamais rien de simple, surtout au niveau qu'il joue. Il est quand même dans des tournois où, est-ce que, comme tu dis, il y a de très bons joueurs. Donc, je pense que ça va rester à voir avec les résultats qu'il y a eu dans les derniers mois. On se sent peut-être un peu moins confiant par rapport à Félix. Ouais. Je pense qu'il va devoir, comme je disais tantôt, changer un petit peu de choses, mais ça reste un joueur qui a tellement de potentiel, qui a tellement de qualité, tellement de talent, que ça ne m'étonnerait pas non plus qu'une semaine à une autre, il explose, puis que finalement, il se rende en finale, puis qu'il soit comme un peu de retour, entre guillemets, parce que Félix, c'est un joueur qui est très discipliné, qui est très persévérant, qui s'entraîne très fort, donc avec des qualités comme ça, on le sait que c'est juste une question de temps parfois. Donc là, je pense que c'est peut-être juste un petit bas dans sa carrière, puis ça l'arrive à tous les joueurs, mais je pense que on l'espère, tu sais, je peux pas prédire, mais je suis pas hyper confiante non plus. Donc à voir, on est comme un peu curieux à chaque semaine de voir si c'est le moment qui explosera ou non, mais quand tu as des fiches gagnantes comme ça, faut juste que ça reste comme ça, parce que là, s'il continue de les jouer, puis ça ne se concrétise pas, ben peut-être que les fiches gagnantes ne seront plus gagnantes, là, mais espérons que ça continue de cette manière-là pour Félix.
Ah, intéressant, il sera à Munich, que je rappelle, il a un tableau relativement prenable, Félix, mais on a dit ça souvent cette année qu'il avait un tableau prenable. Oui, Hugues, tu l'as acheté.
Charlotte, une petite question pour toi. Moi, j'ai l'impression, puis tu l'as vécu aussi, j'ai l'impression que pour plusieurs joueurs un peu moins bien classés que Félix, ça devient un peu une opportunité pour un joueur classé 100 ou 50e d'aller chercher un gros nom en début de tournoi. J'ai l'impression que Félix est un peu aussi victime de ça, qu'il y a des joueurs qui ont moins à perdre que lui, qui vont arriver en confiance et disent « Ah, lui, il est peut-être prenable en ce moment. » Ce qui peut expliquer un peu, c'est souvent ses défaites au premier ou deuxième tour. Donc, est-ce qu'effectivement, un joueur peut devenir une cible plus facile à un moment donné là par un passage à vide qu'on peut voir en ce moment peut-être de Félix et de devenir une cible, en fait?
Définitivement. Je pense que les joueurs sur le circuit, ils savent un peu, ils sentent un peu qui joue bien, qui est en confiance, qui est une bonne séquence. Comme là, en ce moment, c'est sûr que personne ne veut affronter que ce soit Sinner ou Alcaraz en forme ou que ce soit d'autres joueurs qui ont eu des vraiment bons tournois. Donc, tu le sais, quand il y a un joueur qui a un très bon potentiel, mais qui est comme un peu en déclin dans les derniers temps. Donc, définitivement, que quand les joueurs sont moins bien classés, ils sont comme, on dit en anglais, le underdog, puis ça donne comme une motivation de plus à vouloir aller chercher une grosse victoire. Surtout s'ils savent que, par exemple, là, dans l'exemple de Félix, c'est pas ses meilleures journées, il trouve moins ses repères, il joue moins libéré. Donc, probablement qu'il voit ça comme une belle opportunité. Surtout que là, ça fait pas juste comme 2-3 matchs que c'est difficile pour Félix, mais ça fait plusieurs temps. Donc là, dès qu'il voit le nom Félix dans le tableau, peut-être qu'ils se disent, OK, ben c'est ma chance, puis ils se préparent encore mieux, puis ils sont moins intimidés, disons. Parce que des fois, quand tu joues à un gars du top 30, 40, 50, il y a comme un sentiment de oh, il est solide, est-ce que je peux être à la hauteur? Il y a comme un côté insécurisant, disons, peut-être, de jouer contre ces grands noms-là, mais là, dans le cas de Félix, c'est peut-être même plus vu comme une opportunité.
C'est
Donc,
ça.
peut-être que oui, il est victime de tout ça, là, quand tu vois qu'un joueur est plus en déclin, ils sont plus peut-être susceptibles de sauter sur leur chance.
Un peu comme tu sais, les Federer en fin de carrière. Tu sais, bon, je peux mettre le nom de Federer sur mon tableau de chasse. C'est
Ouais.
un peu ça également. Enfin, on verra. Il est à Munich cette semaine. On en reparlera la semaine prochaine de voir qu'est-ce qu'il aura fait, Félix. Quand même une fiche de. Bon, il joue pour 500 là, d'une certaine manière. Là, 9 victoires, 9 défaites cette année. Une demi-finale à Montpellier. Rien de catastrophique, mais rien d'exceptionnel non plus dans le cas de Félix depuis le début de la saison. Je veux qu'on revienne aussi sur ce tournoi-là à Monte-Carlo, justement,
Ouais.
parce que c'est Titi Paz qui l'a emporté. Je ne sais pas, est-ce que c'est une surprise, Hugues, de dire que Titi Paz est champion de ce tournoi-là quand on regarde la qualité de joueur qui s'y trouvait?
Oui et non, parce que c'est quand même sa troisième victoire à Monte-Carlo. Il rejoint un groupe extrêmement sélect de joueurs à trois victoires, dont Björn Borg, Thomas Muster, Ili Anastasi. C'est seulement Nadal, évidemment, avec 12, là, qui domine le nombre de victoires à Monte-Carlo. Évidemment, Tsitsipas, c'est un tournoi qu'il aime beaucoup, mais il n'était pas dans une bonne passe depuis plusieurs mois, Tsitsipas. Donc, c'est une victoire qui doit lui faire beaucoup de bien. Donc, ce n'est pas tant une surprise que ça. Il y a eu un petit break, on va en parler un peu plus tard là, dans son match contre Sinner, où il y a eu un mauvais appel de ligne à un moment crucial, mais il a quand même très, très bien joué. Je ne veux rien lui enlever parce qu'il l'a mérité quand même ce tournoi-là. Donc, oui et non, ce n'est pas une si grande surprise que ça, d'autant que c'est la troisième fois qu'il gagne à Monte-Carlo.
C'est un 12e titre pour Stefanos Tsitsipas, qui aura quand même battu dans ce tournoi-là, notamment Alexander Zverev, Arena Chanov, Yannick Sinner, joueur de l'année présentement, et
Et
Casper
Casper
Ruud.
Ruud,
On sait à
quand
quel
même.
point il est bon sur terre battue. Il
Ouais.
n'aura pas volé ce tournoi-là, Charlotte.
Non, vraiment pas. Moi, personnellement, j'étais très surprise parce que, comme Hugues l'a mentionné, il n'était pas dans une bonne passe. Il était même sorti du top 10. Donc là, il est de retour. Mais c'est ça, je ne m'attendais pas nécessairement. C'est sûr que c'est un super bon joueur. C'est un super bon joueur spécialement aussi sur terre battue, ayant gagné maintenant trois fois tour du chapeau à Monte-Carlo. Mais tu regardes son tournoi, il a perdu juste un set contre Sinner. Sinon, c'est des très bons matchs, très solides. Donc, on voyait que c'était très émotif pour lui aussi quand il a gagné le tournoi. À la fin, il était assis puis il pleurait beaucoup. Donc, des fois, de sortir d'une passe plus difficile puis de gagner un gros tournoi comme ça, pour la troisième fois aussi, ça doit avoir une signification importante pour lui. On voyait que ça le touchait vraiment. Donc, je suis très contente pour lui. Il n'a pas volé à personne. Super bon tournoi. Surpris Sinner, surpris Ruud. Donc, ouais, je m'en attendais pas, mais en même temps, regardant ses résultats passés à Monte-Carlo, c'est bien à lui.
C'est un troisième titre Masters 1000 pour lui. Évidemment, c'est le troisième à Monte-Carlo également. Comme Charlotte l'a si bien dit, c'est un tour du chapeau. L'autre élément intéressant dans ce cas-là, mon cher Hugues, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, on annonçait la mort du revers à une main, et là, soudainement, remporte le tournoi. Un revers à une main remporte le tournoi à Monte-Carlo, et on en retrouve deux dans le top 10 présentement.
Ben oui, avec Dimitrov qui a eu un très très bon printemps, notamment une finale à Miami, puis des grosses victoires là, notamment contre Alcaraz. Moi j'ai envie de dire c'est la fin du revers à une main ou le revers à une main est mort. Vive le revers à une main parce que les deux Tsitsipas et Sinner et Dimitrov sont dans le top 10 cette semaine sur deux surfaces différentes en plus. Donc le revers à une main en fait se porte plutôt bien la conclusion là après quelques tournois Puis ce qui est intéressant, c'est que la terre battue, on le sait, c'est un rebond qui est très haut. Souvent, les joueurs à revers une main se font prendre avec une balle qui est aux épaules, qui c'est plus dur de mettre de la puissance. Federer en a souffert très longtemps en passant, notamment contre Nadal. Mais
Nadal, à peu près.
Oui,
juste contre Nadal.
Exact. Mais Tsitsipas joue admirablement bien sur terre battue. Donc, très bien. Moi, je suis très content de voir là, que le revers à une main trouve toujours sa place. Évidemment, j'ai un revers à une main, fait que je suis un peu partiel là, dans mon choix. Mais c'est d'une telle beauté en plus quand ce revers-là fonctionne bien. C'est du grand art. Là, puis je suis content de voir que Dimitrov et Tsitsipas se retrouvent dans le top 10 ce matin.
Moi aussi, je suis bien fan du revers à une main pour le look que ça donne. Je sais que même Federer a déjà dit peut-être que si c'était à refaire, peut-être qu'il irait à deux mains. Charlotte, toi, je suis curieux. Du côté féminin, il n'y en a presque pas de revers à une main. Mm-hmm. Je pense que Carla Suarez-Navarro avait un revers à une main, puis c'est à peu près tout. Là, c'est rare. Mais toi, mettons, là, comme fan de tennis, es-tu quand même fan du revers à une main? Puis comme technicienne du tennis, l'es-tu aussi?
Moi, je trouve ça vraiment magnifique, c'est sûr. Là. C'est beau, un revers à une main, c'est élégant, ça a l'air comme... Tu sais, c'est impressionnant, ça a l'air fluide et facile, mais la réalité, c'est que c'est vraiment difficile de frapper un revers à une main. Puis, je pense que ça crée aussi peut-être une lacune ou une faiblesse chez le joueur ayant un revers à une main. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on le voit de moins en moins, puis on le suggère aussi moins dans le développement parce que c'est difficile sur le bras, parce que là, t'as juste un bras qui travaille, entre guillemets, puis l'autre qui est plus comme en accompagnement. Mais quand t'es jeune, puis t'es peut-être moins développé, t'es peut-être moins musclé, c'est très, très difficile, surtout quand la balle t'es un petit peu en retard avec ton point d'impact. Donc, ça peut être très susceptible de blessure aussi à un jeune âge. Là. Donc, même, je me rappelle, j'ai le même âge que Denis Shapovalov, puis je me rappelle quand il était très jeune, puis qu'il est arrivé à Tennis Canada, il y en a beaucoup qui lui disaient qu'il devait complètement changer son revers, puis y aller avec un revers à deux mains, puis c'était clair pour lui, puis c'était sa mère qui disait non, aucune chance qu'il change son revers, on le garde comme ça, ça va être un revers à une main, puis il est déjà bon, puis c'est vrai, je me rappelle, il avait déjà ses cheveux longs, puis sa casquette par en arrière, puis il frappait ses revers, puis tout le monde était hyper impressionné, là, parce qu'il était talentueux depuis toujours, mais c'est ça, c'est impressionnant, c'est beau, les gens apprécient ça, mais je pense qu'on va le voir de moins en moins, comme là, juste dans le top 10, oui, il y en a deux, mais ça reste que c'est juste comme 20% des joueurs du top 10, puis si on regarde dans le top 100, il y en a vraiment moins que de revers à deux mains, donc il y a un aspect esthétique à ça, mais je pense qu'au côté pratique, ça devient comme plus une faiblesse, c'est difficile sur le corps aussi, difficile sur l'épaule. Donc, je pense qu'on va le voir de moins en moins. Puis, c'est ça, à voir pour la suite.
Hugues et Charlotte, vous connaissez vraiment plus la technique du tennis que moi. Là. Moi, je suis vraiment plus en position de fan qu'en position de technicien. Mais bon, il doit quand même y avoir certains avantages. Est-ce que c'est la rapidité des mains puis la facilité peut-être à frapper une balle plus rapidement, plus simplement dans le rebond à une main que de le faire à deux mains, Hugues?
Ben, comme Charlotte disait, le volet fluidité est pas à négliger non plus. Je pense que quand tu es sur des coups à bout de bras, le revers à une main est peut-être un petit peu plus simple parce que t'as une portée qui est plus grande avec une main qu'avec les deux. Souvent, je trouvais que ça favorisait au niveau des slices aussi, donc tu passes d'un effet à l'autre. Souvent, les joueurs qui ont un bon revers à une main, étrangement, sont bons au filet, ont des bonnes volées aussi. Donc, je pense qu'au niveau technique, il y a quelques avantages, mais effectivement, comme Charlotte le dit, il y a quelques lacunes qui vont souvent ressortir à des moments importants, sur des points clés, où si tu es un peu moins timé, un peu moins confiant, ben le revers à une main va craquer, on dirait plus souvent que le revers à deux mains. Donc, c'est un petit peu ça que je vois là comme différence. Puis moi aussi, je me suis posé la question longtemps, je fais deux mains ou une main, mais je suis juste plus à l'aise à jouer à une main qu'à deux mains, mais j'ai dû trouver des solutions parce que sur certains coups, je me fais attaquer tout le temps sur mon revers à une main, puis c'est pas toujours le fun.
C'est ça le truc. Quand on va faire la classique sur la ligne, on attaque le revers de Hugues. Et c'est son point fait. Bon, maintenant, on le sait. Charlotte, tu as déjà essayé, pratiquer, je ne sais pas, là, pour l'essayer le revers à une main. Du côté féminin, il n'y en a presque pas, puis il n'y en a presque jamais eu. Là. Mais l'as-tu déjà essayé puis pratiqué?
Je l'ai déjà essayé, puis honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis moi, j'avais un très bon revers. Des fois, c'était même parfois ma force. Donc, puis j'ai su aussi, j'essayais de faire des revers à une main, puis ça n'allait pas bien. Puis j'ai su qu'il fallait que tu changes ta grippe. Ouais. Donc, une fois que j'ai changé ma grippe, Ça allait mieux, mais c'était vraiment pas naturel. Puis je le sentais beaucoup dans mon épaule. Donc, tu sais, quand t'es pas habitué, puis que tu as déjà le support de tes deux mains habituellement, puis tu as l'habitude de faire ça, c'est un peu spécial. Mais je pense que quand tu commences directement avec ton revers à une main, même chose, c'est difficile de changer pour la suite,
Puis
aller vers le deux mains.
en plus, pour une gauchère, ça doit être un peu particulier parce que si, mettons, tu es en échange croisé, mais c'est toujours que ton revers toujours sur le coup droit de l'autre. Tu sais. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que ça doit être un peu plus compliqué en plus pour une gauchère. En tout cas, je dis ça, puis je ne suis pas sûr.
Ouais, ben c'est comme Denis, il est gaucher puis il a un revers à une main, donc des fois ça peut être comme un peu une faiblesse, mais je pense qu'il contourne beaucoup, il utilise beaucoup sa slice, comme tu disais Hugues, il monte au filet, donc il y a d'autres alternatives. Puis je pense que c'est vrai que ces joueurs-là souvent ils varient un petit peu plus, mais des fois quand ça vient vite puis pour être capable de contrer puis prendre la vitesse au niveau du timing sur les ballottes ou des choses comme ça peut être plus
Exact.
difficile. Mais c'est de travailler autour de ça. Quand tu sais que tu as un revers à une main, ben, tu travailles peut-être un petit peu plus certaines balles qui pourraient devenir une faiblesse à long terme. Mais définitivement, quand tu te ramasses dans la diagonale, le coup droit à revers à une main gaucher, ça peut être un petit peu plus difficile.
Alex, peut-être ajouter un petit point là. Puis je pense que l'évolution du tennis au fil des années rend ça plus compliqué pour le revers à une main aussi. Tu sais, tu remontes il y a 10, 15, 20 ans, quelques noms, là, évidemment, Navratilova, mais après, pense à une Justine Henin, pense à Steffi Graf. Il y a eu des grandes joueuses en revers à une main, mais le tennis n'était pas aussi rapide, aussi dans le rebond qu'il peut l'être maintenant. Je pense que ça devient plus compliqué à maîtriser, encore plus du côté féminin que du côté masculin. Le revers à une main.
J'en doute pas. Ben, on va faire une courte pause sur ces paroles sages de Hugues. Et au retour, ben, il y a deux dossiers qui ont fait jaser pas mal la semaine passée. Le dossier des arbitres juges de ligne et Novak Djokovic qui continue, ben, faire jaser pour toutes sortes de raisons à l'extérieur. Tu
Séjournez dans l'une des magnifiques suites entièrement vitrées de l'Hôtel Montville. Vous serez gâté grâce à un 30% de rabais sur votre deuxième nuitée. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour bénéficier de cette offre exclusive. Si vous planifiez une escapade hivernale à Montréal, ne passez pas à côté d'un séjour inoubliable à l'Hôtel Montville. Profitez de son emplacement idéal pour explorer toutes les merveilles que la ville a à vous offrir. Avec notre offre Restez plus et économisez, prenez le temps et bénéficiez d'une réduction sur les séjours de 3 nuits minimum. Retrouvez l'offre sur hotelmontville.com.
Pendant la pause, j'ai reçu un message d'Abraham Santerre, notre collègue aux médias sociaux. Il nous dit que c'est la fête de Denis Shapovalov aujourd'hui. Alors, ben, bonne fête, Denis. Es-tu encore en contact un peu avec Denis, Charlotte? Tu dis que tu le connaissais depuis tout jeune. T'es-tu en contact? C'est sûr que les gars sur le tour, c'est peut-être un peu plus compliqué d'être en contact régulièrement avec eux autres.
Ouais, c'est plus difficile. On était très proches dans les juniors. On se voyait sur tous les tournois. On a fait comme la Junior Davis Cup and
Voilà,
Fed
c'est
Cup,
David.
là. Les juniors mondiaux ensemble. Plein d'autres événements. On est allé visiter en Australie les kangourous, puis on est allé au zoo ensemble. Parce que les deux, on avait perdu, ou c'était une journée que les deux, on pouvait. Fait qu'on a décidé d'y aller ensemble avec nos entraîneurs. Donc, ça a toujours été un bon ami, mais on a perdu contact un petit peu à travers les années. Parce que, comme tu dis, c'est difficile parfois quand tu es sur le tour, puis que tu as une copine aussi et tout ça, là. Donc, des fois, c'est juste, on perd contact, mais je suis sûre qu'on se reverrait, puis on serait très content de se voir.
En tout cas, tu pourrais lui envoyer un petit texto pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Et
Ouais.
moi, ben, c'est Denis Shapovalov. Je le côtoie, ben, je ne l'ai presque pas côtoyé chez les juniors, mais je me souviens de ma première entrevue que j'ai faite avec lui au moment où il venait de remporter Wimbledon chez les juniors. Puis je fais une entrevue téléphonique avec lui, puis on a terminé l'entrevue, puis là, je m'en vais pour dire merci, puis il dit attends, 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 Alex, juste en profiter pour remercier toute mon équipe, ma mère, tout ça. J'avais trouvé ça cute qu'il essaie de, tu sais, qu'il prenne le temps d'ajouter à l'entrevue pour pouvoir remercier toute son équipe. Alors, petit garçon, Denis Shapovalov, on lui souhaite d'ailleurs le meilleur, là. Ça n'a pas été simple au niveau résultat en fonction des attentes qu'on attend de lui, là. Faut dire que ce qu'il a quand même accompli dans sa carrière pour l'instant, c'est quand même déjà plus qu'exceptionnel, mais rendu là, on en prendrait plus. Pourquoi pas? J'ai qu'un dossier qui a fait jaser beaucoup avant la pause, c'est celui des juges de ligne. On en jase là, depuis. C'est un débat qui s'est accéléré pendant la pandémie, alors qu'on ne pouvait plus avoir de juges de ligne, mais là, on commence à en parler de plus en plus à presque à chaque erreur. Hugues, peut-être résumer là, pourquoi ça a été un sujet dominant celui des juges de ligne et du hockey à temps plein durant Monte Carlo.
Oui, ben on sait qu'en 2025, tous les tournois seront contrôlés au niveau des appels de ligne par le système hockey qui a fait ses preuves, qui fonctionne bien, qui est en place depuis plusieurs années dans plusieurs tournois, dont ici à Montréal. Mais sur terre battue, ce n'est pas encore mis en place et il y a eu des moments importants durant la semaine à Monte-Carlo où des appels n'ont pas été du bon côté. Puis ça a eu des conséquences importantes, puis notamment durant la finale, dans le troisième set du match entre Tsitsipas et Sinner. C'était 4-1 pour Sinner avec un double break déjà. Tsitsipas sert une deuxième balle. La balle est clairement en dehors, environ 2 pouces. Même Tsitsipas, on voit, hésite à jouer. Il y a comme eu une petite hésitation. Finalement, l'arbitre n'appelle pas le point ou la faute. Le point, il se joue, il gagne le point. Et Sinner a dit la balle était out, mais il n'a pas trop protesté. L'arbitre n'est même pas descendu de la chaise pour aller vérifier cette marque-là. Et quand on regarde le hockey après, on voit très bien que la balle était clairement en dehors. Et ça a probablement scellé l'issue du match pour Tsitsipas. Ça aurait été 4-1, double break, service à suivre. Donc, 5-1 probablement pour Sinner. Donc, ça, c'est un problème important. Medvedev, dans ses deux matchs de huitième et de quart, a eu des appels qu'il a jugés contre lui. Il a pété les plombs complètement, là, puis je pense que son comportement était pas... Autant Sinner a été d'une grande élégance dans son comportement sur le terrain et la conférence de presse après, disant que bon, c'est des choses qui arrivent, c'est maintenant une chose du passé, je peux rien y faire. Mais Medvedev a complètement pété les plombs. Moi, j'ai un point là-dessus, puis on a échangé durant le week-end là, dans notre group chat. Je pense que le facteur humain au niveau des appels de ligne devrait plus avoir lieu maintenant en 2024. Mmh. Il y a trop d'enjeux, il y a trop de conséquences, points, évidemment, commandites, bourses et tout ça. Et on a vu qu'à Monte-Carlo, ces erreurs-là, parce qu'il y en a eu une couple d'importantes, ben, ont modifié l'issue du tournoi. Et honnêtement, c'est un peu surprenant qu'on en soit encore là en 2024, même sur terre battue.
Ben, c'est ça. La question à se poser, puis je la pose à Charlotte parce qu'elle a été sur le terrain pas mal plus que nous. La question à se poser, c'est pas est-ce que le hockey est mieux que le juge de ligne? La réponse, c'est oui, sans se poser la question. La question, c'est est-ce qu'on veut que l'erreur humaine fasse partie du spectacle? Ça, si la réponse est non, ben, il n'y en a même pas de débat. Charlotte, je ne sais pas. Toi, comme joueuse, est-ce que tu préférerais avoir le hockey à temps plein ou vivre avec l'erreur humaine au nom du fait que ben, ça a toujours fait partie du sport et ben, ça peut ajouter au spectacle d'une certaine manière. En tout cas, c'est l'argument qu'on utilise au baseball pour la zone des prises, etc.
Ben, moi, je pense que si on est rendu là, dans la technologie, de pouvoir avoir un logiciel qui permet d'appeler les balles de manière quand même assez régulière, constante et précise, je pense qu'on devrait le faire. On l'a dans les autres surfaces comme le dur, donc pourquoi pas l'amener sur terre battue. C'est sûr que sur terre battue, il y a l'aspect des traces, la balle laisse une trace, donc on peut vérifier et tout ça, mais des fois, il est rendu un peu trop tard ou comme on en parle, là, il y a une erreur humaine de l'arbitre, puis je pense que ça l'arrive. Donc moi, je pense qu'avoir avoir le hockey, c'est un avantage, puis ça peut enlever beaucoup d'altercations puis de situations où est-ce qu'il y a des frustration ou des points manqués, des choses comme ça. Comme tu dis, il y a beaucoup en jeu là, avec les bourses, les commanditaires, la confiance des joueurs sur le terrain, etc. Donc, moi, je le mettrais en place. Je garderais quand même l'arbitre parce qu'il n'y a rien qui est parfait. Je garderais l'arbitre, puis je garderais aussi qu'on puisse regarder les traces et tout ça. Mais je pense qu'on enlèverait une bonne partie des problèmes si on avait le hockey en tout temps. Ça reste que là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, il faut vivre avec ça, il faut respecter l'humain qui est derrière, qui est l'arbitre, en fait. Donc, je trouve que des fois, les joueurs oublient que c'est normal, c'est la réalité en ce moment, qu'il n'y a pas hockey sur la terre battue. Puis, il faut vivre avec. Il y en a tout le temps des erreurs, surtout pendant un match, il y a plusieurs points, plusieurs balles. Donc, ça se peut que des fois, on n'en voit pas, que l'arbitre n'en voit pas une passer, mais pour répondre à ta question, oui, je pense qu'on devrait mettre le hockey, puis tout ce qui est confetti, farfelu autour des réactions, ben je trouve pas ça nécessaire. Je trouve que ça fait juste rajouter un peu de, de drama, là, si on veut, puis si on peut l'enlever complètement, puis juste mettre le hockey, on peut le faire. C'est juste que là, les joueurs doivent être patients puis attendre que ça arrive avant de. Parce que là, c'est pas le cas à 100%, là.
Non, ce sera le cas dès 2025 pour le CCLA. Ce que l'ATP a annoncé, c'est que tous les tournois, incluant les tournois de terre battue. Alors, du côté de l'ATP, on a essentiellement répondu à la question. Et pour en revenir à ce que Charlotte disait, je pense que le principal argument, c'est au niveau de la constance. On a dit, bon, tu as une machine qui, sans peut-être être 100% parfaite, bien, elle va être beaucoup plus constante au volume que l'être humain en moyenne. Alors, je pense que les joueurs vont avoir une meilleure idée de la constance de la machine et ce sera plus facile à accepter d'un
Ouais.
bord ou l'autre. Alors, penses-tu que, ton feeling, là, rapidement, Charlotte, mais penses-tu que 90% des joueurs vont préférer le hockey à l'erreur humaine, si on veut, même peut-être 99% des joueurs?
Moi, je pense que la plupart des joueurs vont accepter le hockey, puis ils sont pour le hockey parce que je pense que ça a été prouvé que c'est mieux, ça enlève les erreurs. Puis je pense que peu importe que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit toi qui subis l'erreur ou ton adversaire contre toi, c'est jamais agréable d'être dans une situation où tu sais que tu t'es fait voler un point ou que tu as volé un point, entre guillemets, par l'erreur de l'arbitre. Donc je pense que tout le monde va trouver ça peut-être plus juste d'avoir le hockey puis d'avoir un arbitre qui assiste puis qui est là malgré tout. Je pense que ça va juste enlever une bonne partie de situations désagréables pour les joueurs là, mais c'est mon opinion là-dessus,
Non.
c'est ce que je crois.
Je vois pas comment, ben franchement, là, je vois pas comment on peut être contre, là, t'sais, t'imagines-tu perdre Wimbledon sur une erreur humaine, t'sais, on
Ben,
l'a
c'est
vu
ça.
là, dans d'autres sports, là,
Ben,
t'sais.
puis j'ai l'impression que la situation de la finale dont on vient de parler là, a juste mis le dernier clou dans l'appel humain. Encore une fois, c'était sous le nez de l'arbitre de chaise. Aurélie Turte qui est une très bonne arbitre, ceci dit, mais elle n'a même pas pris la peine de descendre pour aller vérifier. C'était un service sur le tee qui n'était pas très loin d'elle, en fait. Donc, elle voyait très bien de sa chaise. Et je pense que les autorités qui discutent de ça dans le débrief du tournoi ce matin se sont dit, ouais, je pense que c'est vraiment le temps maintenant qu'on passe au hockey parce qu'on ne peut pas avoir des erreurs comme ça sur un match en finale d'un Masters 1000. Attention, un point qui changeait peut-être l'issue du match. Je pense que le sort est scellé maintenant pour les appels électroniques.
À la
Ben,
limite, ouais, qu'est-ce que tu allais dire, Charlotte?
juste que ça, je pense que ça va être plus sécurisant aussi pour les joueurs parce que quand tu es sur le terrain puis tu joues, tu sais que tu es tout le temps comme un peu susceptible d'une erreur, tu es un peu insécurisé par ça. C'est un gros point, puis là, tu penses tout le temps inconsciemment, je pense, là, en tout cas moi, parce que tu n'as pas vraiment le contrôle à 100% qu'il n'y aura pas d'erreur. Je pense que pour les arbitres aussi, des fois, ça peut être stressant, t'es dans un gros tie-break, un troisième set ou quelque chose comme ça, puis des fois, juste le stress de savoir que, oh non, faut pas que je fasse d'erreur, faut que je reste concentré, des fois, ça peut être beaucoup pour tant les joueurs que les arbitres de savoir qu'il y a comme cette imprévisibilité-là, puis je pense de juste l'enlever, puis de juste dire, regarde, ça va être arbitré de cette manière-là, puis ça va être constant, mais je pense que ça peut être rassurant des deux côtés, tant pour les arbitres que les joueurs.
Ça fait beaucoup de sens ce que tu dis là. Autre élément qui a remarqué un peu ce tournoi-là à Monte-Carlo, dans les dernières semaines, en fait depuis le début de l'année, on a parlé à savoir si l'invincibilité ou l'aura d'invincibilité de Novak Djokovic était disparue. Et je pense que présentement, il est prenable pour beaucoup plus qu'il l'a déjà été dans sa carrière. Mais Hugues, il a fait un peu jaser à cause de son attitude et c'est pas la première fois qu'on parle de son attitude sur et à l'extérieur du terrain dans le cas de Novak Djokovic. Bon, il a déjà été suspendu au US Open. Là, vous vous souvenez de la balle sur l'arbitre. Bon, on peut rediscuter de cet événement-là, là, mais il n'en est pas à ses premières. Je ne sais pas si frasque est le terme trop fort. Peut-être résumer un peu qu'est-ce qui s'est passé, Hugues, et puis après ça, on aura la discussion sur ben, peut-être l'héritage qu'il va laisser comparer aux deux autres du Big Three, comme on dit.
Ouais, c'est un autre sujet dont on parle beaucoup entre nous depuis quelques mois. Et oui, c'est le GOAT au niveau des chiffres. C'est indéniable. C'est une carrière phénoménale au niveau de sa réussite, de ses 24 grands chelems. Mais est-ce qu'il restera dans la tête des gens très longtemps et dans les cœurs aussi des fans de tennis et de sport en général? Puis encore une fois, moi, je doute que Djokovic reste un champion. mémorable dans l'histoire du tennis. Je pense que c'est un champion qui va être oublié assez rapidement, en fait. Et ce qui s'est passé encore à Monte-Carlo la semaine dernière, j'ai jamais vu une balle de match se jouer sur double faute. Donc, Djokovic a fait une double faute en balle de match et été autant applaudi. Généralement, ça fait comme un petit drôle de feeling là, quand tu perds un match sur une double faute. Là, il y a eu un vacarme d'ovation quand Djokovic a fait sa double faute. C'était assez révélateur. Bon, il s'est passé beaucoup de choses. Ça, c'était dans son match donc, de demi-finale qu'il a perdu contre Casper Ruud. Dans son match contre Alex de Minaur la veille, il a été très, très conspué. À un moment donné, ça huait comme c'est souvent le cas. Et souvent, on a dit que Djokovic se nourrissait justement de cet antagonisme qui vient de la foule. Il a dit que c'était comme un orchestre. Donc, il a fait un peu comme un chef d'orchestre pour encourager les cris et les boues durant ce match-là. Puis, en conférence de presse, il a remercié l'orchestre qui lui a donné l'énergie qui était le facteur important pour gagner le match. Dans son match contre Casper Ruud, encore une fois, il y avait un spectateur qui le conspuait. Il lui a répondu directement en lui disant « shot the F up » assez directement. Donc, encore une fois, plein de petits événements comme ça. C'est sûr que c'est un grand champion très mal aimé, Djokovic. Je pense que son héritage en termes d'appréciation risque d'être assez faible, en fait, quand il va prendre sa retraite, même si dans les livres de records, c'est lui qui sera au sommet.
Je ne sais pas s'il faut apprécier le fait que, d'une certaine manière, ou respecter plus qu'apprécier, je pense, il vit librement à sa façon et accepte définitivement les conséquences de la personne qu'il est. Il en est définitivement conscient. Je ne sais pas si d'une certaine manière, il faut respecter ça. Mais en même temps, quand tu le mets à côté de Nadal et Federer qui ont des auras à moins d'avis contraires, là, qui frôlent la perfection, remarque, on a dit la même chose de Tiger Woods pendant longtemps, ça a pris une histoire pour que ça déboule rapidement. Là. Je ne dis pas que Federer ou Nadal ont des histoires de ce genre-là, là, mais je ne sais pas. Tu es un expert du marketing. Est-ce qu'il joue avec son héritage, Hugues? T'sais, c'est un peu ça.
Tout d'abord, moi, j'ai été très agréablement surpris du fait que Lacoste reste avec lui contre vents et marées durant la saga du vaccin. C'est leur poster boy, c'est leur choix. Ils sont avec lui jusqu'au bout, visiblement. Mais oui, au niveau marketing, on le dit souvent, son ratio bourse-commandite est beaucoup plus... Ouais. En faveur des bourses. En fait, non, c'est pas vrai. Il y a plus de commandites que de bourses, mais le ratio est moins élevé que les autres joueurs. Nadal, Federer font plus de commandites que Djokovic à tout moment. On regarde les audiences télé aussi. C'est finale importante. Quand il a dépassé le 22 Grand Chelem de Federer et Nadal au US Open 2022, les cotes d'écoute de la finale femme, qui était, cela dit, très, très intéressante, a été plus haute que le match historique de Djokovic. Même chose pour la finale en Australie, où il a gagné son 24e Grand Chelem pour égaler Margaret Court. La finale féminine, encore une fois, a eu des meilleures cotes d'écoute que Djokovic. Moi, je pense que l'intérêt marketing, l'intérêt du grand public, les retombées pour le tennis en général de Djokovic, ne sont pas à la hauteur de ses résultats sur le terrain.
Charlotte, tu as vu grandir... Novak, quand tu étais tout jeune, Novak Djokovic était déjà parmi les plus grands joueurs au monde. Je suis sûr qu'à un certain point, ça a déjà été ton joueur préféré. Peut-être que je me trompe, là, mais tu devais l'admirer d'une certaine manière. Quand tu vois comment il est sur le terrain, restes-tu quand même une fan de ce qu'il est? Et ton visage me fait dire que pas tant.
Bien, comme tu dis, il faut l'admirer. Je veux dire, il y a des résultats incroyables. C'est le meilleur de tous les temps, de plusieurs manières, dans ses résultats. Donc, c'est certain que je l'admire de ce côté-là. Par contre, c'est pas un joueur que j'ai envie d'aller prendre un café avec. Tu comprends? C'est pas celui que je vais m'asseoir dans les estrades et je vais encourager dans un tournoi. Même que quand il joue, j'ai pas nécessairement envie de le regarder parce que je sens qu'il y a beaucoup de lourdeur. C'est souvent comme... je regardais le match, justement, là, il y a quelques jours, puis j'y disais très candidement, j'ai dit « Ah, oh, il chiale toujours. » Puis je me sens mal un peu de juger parce que des fois, je sais quand on est sur le terrain, il y a beaucoup d'émotions, mais en même temps, des fois, je me dis « T'as tout pour toi, t'as tout ce qui... » Tu pourrais garder ça un petit peu plus léger, puis je trouve que des fois, il va beaucoup dans les extrêmes. Donc, moi, je trouve que ça a commencé beaucoup avec le vaccin. Avant ça, trouvais pas que sa personnalité était tant polarisante,
Même
mais là,
chose.
j'ai comme l'impression qu'il a goûté un peu au côté contradictoire de pas se faire aimer, puis d'avoir beaucoup de réactions dans les médias, puis autour des gens, puis on dirait qu'il a comme aimé ça. Moi, c'est ma perception. C'est peut-être une hypothèse, puis il se dit, ben, parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en. Peut-être que c'est ça, tu sais, puis je pense qu'il y a il va dans, comme tu dis, il va dans sa personnalité, il est ce qu'il est, puis prenez-moi comme ça ou prenez-moi pas, un peu comme Daniel Collins l'a dit, moi, c'est ça que je suis, puis vous allez m'avoir comme ça, mais je trouve que c'est dommage parce que comme on le compare avec, certains trouvent que Federer est le greatest of all time, par sa classe, par son calme, par sa générosité, par ça, tu sais, il est quasiment noble là, fédéral, on peut vraiment pas comparer Djokovic de cette manière-là. Donc, je trouve ça dommage que c'est le genre d'exemple parce qu'il y a beaucoup de joueurs, jeunes joueurs comme tu dis, qui peuvent l'admirer, qui peuvent le prendre en exemple. Donc, je trouve que de crier à la foule, shut the F up, de jouer un peu comme ridiculiser, pardon, le fait
Le
qu'il
fan aussi.
était hué, tu sais, etc., etc., beaucoup de choses, là. Puis après ça, il tweet sur les réseaux sociaux, je dédie cette victoire à mon
Alors,
orchestre avec la photo de lui qui a les mains dans les airs. Donc, c'est plein de choses qui me font un peu avoir un goût amer par rapport à lui. Tu sais, il a l'air un peu condescendant, il a l'air un petit peu au-dessus des affaires, il a l'air un peu arrogant. Donc, je pense que ça pourrait se faire d'autres manières. Puis, comme on dit, il a tellement de belles carrières que je trouve ça dommage qu'il laisse cette tâche-là un petit peu par rapport à ses réactions-là. On dirait que ça fait un peu, excusez-moi, là, mais bébé gâté, là. T'sais, il a pas ce qu'il veut, puis si ça marche pas à son goût, ben il explose. T'sais. Fait que ça me dérange.
Ben, moi, tu sais, moi, ce qui me trotte dans la tête toujours, dans le fameux débat du greatest of all time, c'est quel est l'impact qu'il va laisser sur son sport à long terme? C'est là, pour moi, que c'est un facteur plus subjectif qu'on doit prendre en considération dans la discussion, mais qui peut être objectif aussi, parce que c'est relié encore une fois au code d'écoute, aux commanditaires qui veulent embarquer dans le tennis si leur plus grand champion est pas aimable, puis que les gens ont pas trop envie d'en parler. Encore une fois, j'ai l'impression que son héritage sur le tennis va souffrir de ça. Et c'est bien dommage, parce qu'effectivement, au niveau de sa réussite sportive, c'est admirable ce qu'il fait, puis comment il le fait, puis les moments qu'il a fait, les balles de match qu'il a sauvées, notamment deux fois contre Federer au US Open à Wimbledon, pour ceux qui s'en souviennent. C'est exceptionnel ce qu'il a réussi. Là, dans des moments, au niveau mental, moi, s'il y avait un joueur à choisir pour jouer pour ma vie, c'est Djokovic que j'irais prendre pour jouer pour moi. Mais encore une fois, je pense que son héritage sur le tennis et sur l'intérêt pour que les jeunes jouent au tennis, que les gens soient intéressés au tennis en général, mais malheureusement, ce n'est pas à la hauteur de ses résultats.
Moi, le joueur que je prends pour sauver ma vie, c'est Hugues, mais avec son revers à deux mains.
Il va falloir que je passe à deux mains, c'est ça.
Si c'est à une main,
Oh, wow, tu joues avec le feu, là, je
Pas
pense.
sûr.
Ouais, ça se pourrait que je joue avec le feu. Mais non, c'est intéressant la nuance sur le plus grand de tous les temps, à savoir, bon, est-ce qu'on intègre, est-ce qu'il est le meilleur joueur de tous les temps? Je pense pas qu'il y ait beaucoup de débats là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il est le plus grand au sens de tout ce qu'il peut apporter sur le sport? Ben là, je pense qu'il y a vraiment un argument à avoir là-dessus. Et bien, franchement, si on rentre ça dans l'équation, je pense que c'est difficile de déloger Federer à ce niveau-là pour tout ce qu'il a amené sur le sport, peut-être même Nadal aussi. Je pense que c'est quoi? C'est pendant 10-12 ans que Federer était le joueur le plus apprécié des fans, mais de suite. Alors, je ne pense pas que Novak Djokovic va le remporter une fois d'ici la fin de sa carrière. Enfin. On va faire une courte pause après ce débat sur Novak Djokovic. Et au retour, ben, on va regarder ce qui va se passer dans les tournois qui s'en viennent. Et on a le retour, justement, de Raphaël Nadal.
Séjournez dans l'une des magnifiques suites entièrement vitrées de l'Hôtel Montville. Vous serez gâté grâce à un 30% de rabais sur votre deuxième nuitée. Rendez-vous sur hôtelmontville.com pour bénéficier de cette offre exclusive. Si vous planifiez une escapade hivernale à Montréal, ne passez pas à côté d'un séjour inoubliable à l'Hôtel Montville. Profitez de son emplacement idéal pour explorer toutes les merveilles que la ville a à vous offrir. Avec notre offre Restez plus et économisez, prenez le temps et bénéficiez d'une réduction sur les séjours de 3 nuits minimum. Retrouvez l'offre sur hotelmontville.com.
De retour à Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado. On est également diffusé à la télé, à TVA Sport et sur les plateformes de balado, mais c'est notamment sur les plateformes numériques de Cogeco. Hugues, on a eu une bonne nouvelle cette semaine, puisque après avoir vu Rafael Nadal ne pas participer au tournoi de Monte Carlo, ben, il va jouer chez eux en Espagne. À Barcelone, on l'a même vu de retour à l'entraînement déjà.
Et il a pris un set d'entraînement 6-1, André Roublev quand même. Là. Donc, je ne sais pas si Roublev était tout à fait prêt pour ce réchauffement-là ou cet entraînement-là, mais c'est quand même encourageant pour Nadal. Effectivement, il y a eu un petit doute là jusqu'à la dernière seconde s'il était pour jouer ce tournoi-là, mais visiblement, il l'a fait. Il l'a annoncé en fait en conférence de presse un peu plus tôt aujourd'hui. On sait qu'il s'était retiré de Monte-Carlo. C'est une très bonne nouvelle. On a hâte de voir dans quel état il sera vraiment, puisque la machine va tenir le coup jusqu'à Roland-Garros. Mmh. On sait que, bon, que ça risque d'être son champ du cygne cette année à Roland-Garros, mais Barcelone, c'est sa maison, c'est sa cour arrière. Donc, très content de l'avoir en action cette semaine dans ce beau tournoi ATP 500.
Ouais, on en a parlé dans l'édition télévisuelle là, qui va être diffusée d'ailleurs cette semaine. Vous avez une chance de nous écouter à TVA Sport. On en a parlé de ça. Est-ce que c'est le champ du cygne pour Rafael Nadal? On regardait ses tournois depuis le début de la saison. Il n'a joué qu'un tournoi à Brisbane avant l'Australie. Ouais. Et puis depuis, ben, il n'a pas joué. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver de ce côté-là. Charlotte, tu t'attends quoi de Rafael Nadal à Barcelone? Penses-tu qu'il peut être compétitif ou gros point d'interrogation étant donné qu'il n'a presque pas joué?
Moi, je pense que s'il est en santé, il peut être compétitif. C'est Rafael Nadal, c'est le meilleur joueur sur Terre là-dessus. Puis je pense qu'il l'a démontré à plusieurs reprises. Donc, ça va juste dépendre, selon moi, de son corps, de ses blessures, s'il va être capable de jouer à 100% ou non. On voit de belles choses déjà, là, comme Hugues l'a mentionné à l'entraînement, chercher des sets quand même assez facilement contre Rublev, puis on le voit à chaque jour. Donc moi, je suis très contente de le voir dans ce tournoi-là. Je pense que c'est très motivant pour lui aussi. Je pense qu'il veut essayer de jouer, comme il l'a mentionné dans sa conférence de presse, il veut essayer de jouer le plus longtemps possible. Il sait pas ça va être jusqu'à quand, mais jusqu'à ce que ça soit logique pour lui de jouer, donc qu'il soit capable de jouer à la maison, puis qu'il soit peut-être capable d'enchaîner après ça sur Roland-Garros, ben, je suis très contente de voir ça. Moi, je pense qu'il peut être très redoutable, puis j'espère juste que son corps va tenir pour tout le tournoi.
Ouais, pour tous les amateurs de tennis, c'est sûr qu'on espère Rafael Nadal qui peut tenir le coup, peut-être même jusqu'à une finale à Roland-Garros, qui sait nous donner une dernière danse. À Barcelone, c'est un de ses tournois préférés. Hein. Il a joué 15 fois ce tournoi-là. Il n'a que 3 défaites, 12 titres. Allez, la dernière en 2021, c'est phénoménal. Ouais. Ce qu'il a fait, ouais, tu voulais acheter quelque chose?
Ben, il joue contre, effectivement, là, c'est vraiment son tournoi maison. Il joue contre Coboli, l'Italien, au premier tour, qui est 68e mondial. Mais dès le deuxième tour, ça serait Alex de Minaur, qui est une petite peste, excellent joueur, ultra, ultra rapide. Ça va être un sacré test pour Rafael Nadal au deuxième tour, là, si jamais il se rend contre de Minaur. Mais bon, qui sait, encore une fois, c'est le genre de joueur qu'il ne faut jamais tenir comme perdant Rafael Nadal, parce que c'est un des plus grands gagnants de l'histoire de tous les sports confondus.
Entre de Minaur et Nadal, celui qui est le plus déçu, c'est de Minaur. C'est lui qui se dit « Ah, pourquoi j'ai Rafael Nadal dans les pattes au deuxième tour? » Nadal, il se dit « Bon, OK, j'aurais pas avoir un tour plus facile, mais dans sa tête, il sait qu'il peut sortir. » C'est de Minaur qui est le plus frustré des deux, c'est sûr.
Ben, ça, c'est l'effet Nadal sur terre battue, je pense. Tu viens de le dire toi-même. Là, peu importe à quel moment tu joues Nadal sur terre battue, t'as pas le sourire aux lèvres. Là. Donc, je pense que le seul point d'interrogation, c'est peut-être « Oh, sera-t-il prêt physiquement? Sera-t-il capable de passer à travers tout le match? » Mais je pense que déjà, les joueurs, comme tu dis, c'est comme « Oh non!
» Oh non, c'est sûr. Tu peux rien tenir pour acquis. Tu dis « Bon, OK, peut-être qu'il est prenable, il n'a pas joué de la saison, mais Nadal, s'il termine avec le trophée à la fin du tournoi, il n'y a personne de nous qui va faire qui a dit « Ah, c'est impossible! » Personne. On va le dire avec un sourire en coin, encore, il est encore capable. Dans ce tournoi-là, il a Stefanos Tsitsipas aussi qui est dans ce tournoi-là, qui arrive tout juste de sa belle victoire à Monte-Carlo. Musetti est également de ce tournoi-là. Kasper Ruud, Rublev et Achanov. Alors, quand même un tournoi relevé à Barcelone cette semaine. Hugo Humbert également fait partie de la distribution de ce tournoi-là. J'ai hâte de voir ce qui va arriver du côté de Rafael Nadal. Je ne sais pas, je vous demande une prédiction là, pour Dominant. S'il affronte Dominant, est-ce qu'il passe Dominant? Charlotte, je commence avec toi.
Ben moi, je pense que Dominant a démontré quand même de belles choses sur terre battue depuis le début. Surprenant. Mais honnêtement, je ne sais pas si j'ai un petit parti pris. Mais je pense quand même que Rafael Nadal est capable de passer ce match-là, malgré que Dominant, c'est un joueur très, très difficile. Dès que tu joues Dominant, tu sais que tu vas devoir aller chercher ton match, qu'il ne va rien lâcher, qu'il va être sur chaque balle. Donc, il n'y a rien de donné de ce côté-là. Mais ma prédiction serait quand même Rafael Nadal pour ce match-là.
Un titre cette année, Dominant, c'était à Acapulco. Je ne sais pas, Hugues, est-ce que tu vois Nadal passer Dominant ou ça sera trop fort, trop rapidement pour Rafael Nadal?
Ben, s'il y a une chose que j'ai appris au fil des ans en voyant Nadal, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais avec Nadal. Mais encore une fois, il n'a pas beaucoup de tennis dans le corps depuis le début de la saison. Et à ce niveau-là, on sait que c'est quand même important d'enchaîner quelques matchs en tournoi, pas seulement en pratique. Donc, moi, je crois que Dominant va avoir le dessus sur Nadal. Et j'ai un doute, effectivement, physiquement, s'il peut tenir une bataille de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Ça risque d'être difficile pour lui. On avait l'impression, dans les images qu'on a vues la semaine dernière, qu'il avait peut-être perdu un peu de poids. Peut-être pour protéger son pied aussi, je ne sais pas. Mais c'était une impression que j'avais, en tout cas, qu'il avait l'air un peu plus mince qu'à l'habitude, un peu moins musclé qu'à l'habitude. On verra, mais bon, ça va être compliqué pour Nadal, là, mais souhaitons-lui, puis encore une fois, je le redis, jamais dire jamais contre Nadal. Donc, je ne serais pas si surpris si on le revoit en quart de finale ou en demi-finale.
100%. Du côté des femmes, on va principalement, il y a quelques tournois, là, mais on va principalement suivre le tournoi de Stuttgart, qui était autrefois le tournoi de Maria Sharapova, là, puisqu'elle était commanditée par Porsche. Exact. Et puis elle lui participait à chaque année. Je suis en tête que dans ce tournoi-là, il y a également Yelena Ostapenko, la préférée de Hugues Léger.
Sabalenka est là. Sabalenka, deuxième favorite.
Ouais, Sabalenka, c'est un tournoi très relevé là, pour un niveau 500. Coco Gauff y est également, elle a déjà d'ailleurs passé. Elle va affronter Vickery, sa compatriote, au deuxième tour. Vondrousova est là également, Paula Badosa. Enfin, c'est un tournoi quand même relevé pour un 500, tournoi qu'on va garder du coin de l'œil, mon cher Hugues.
Oui, j'ai l'impression qu'il y a une Porsche à la clé aussi, donc c'est une motivation supplémentaire. Puis effectivement, pour un 500, tu as un tableau qui est très, très relevé, avec quoi, 3 des 5 premières mondiales. Puis encore une fois, oui, je suis content que tu mentionnes Ostapenko, qui peut toujours nous surprendre. Moi, j'ai toujours hâte de voir ce qu'elle va nous sortir comme frasque sur le terrain, toujours très, très divertissante. Léna Ostapenko, mais une fille qui mérite toujours sa place dans le top 10. Donc, on va regarder ça du coin de l'œil. Je te garde. Malheureusement, aucune Canadienne en action cette semaine.
Et c'est drôle que tu parles de la voiture, parce que c'est l'année passée hein, que Sabalenka avait fait semblant de frapper la voiture remportée par Iga Świątek à la fin de l'année. Puis on se disait, Colin, c'est le fun de voir ces deux-là en finale. Ça te fait rire, Charlotte? Sabalenka, tu te souviens de cette séquence-là?
Ben, connu Sabalenka pour être un peu humoristique, là, ouais. Surtout après les matchs, là, quand elle perd ou quoi que ce soit, elle prend toujours ça, je dirais pas à la légère, mais elle y met une touche d'humour, puis je trouve ça quand même bien de voir qu'elle est capable de faire un peu d'autodérision, puis de montrer que bon, y a d'autres choses dans le fond, puis on peut en rire, on mieux vaut en rire qu'en pleurer, là, fait que je trouve ça bien, puis elle rajoute un peu de couleur aussi, donc... Je trouve ça le fun qu'elle fasse des petits clins d'œil comme ça des fois. Là.
Elle est championne en titre, Iga Świątek. Ça va être difficile de parier contre elle. Elle a déjà 3 titres cette année. Elle est la championne en titre du côté de Stuttgart. Mais dans un tournoi quand même relevé, là. Vous avez entendu les noms un peu plus tôt. Là. C'est quand même un tournoi relativement relevé pour Sexa. On ne reviendra pas sur le tournoi de Munich, puisqu'on en a parlé dans le premier bloc, puisqu'il implique Félix Auger-Aliassime. On avait déjà fait le tour pas mal de ce qui va se passer de ce côté-là. C'est ce qui complète l'épisode de cette semaine. Je vous remercie infiniment Charlotte et Hugues Léger. Je salue Nicolas Richard qui n'est pas là. Et justement, puisqu'il est absent, ben Hugues, ce sera toi qui auras la lourde tâche, mais importante, de terminer l'épisode avec brio.
Bon tennis, Alex. Bon tennis, Charlotte, et ton revers à deux mains. Bon tennis, tout le monde.
Merci.